Alors, l'habitude, c'est qu'on commence à l'heure. Même si y a des personnes qui se sont annoncées comme devant être présentes à distance et que je ne crois pas voir dans la liste pour le moment, mais peut-être on commence quand même. Peut-être demander si tout le monde m'entend, si ça marche bien. Ici, oui, mais à distance. Je vais commencer par deux petites remarques de procédure. Donc, la première, c'est que... Je reçois soit à l'issue, soit après les séances, des remarques ou des questions et aussi des suggestions de lecture. Et j'avais pris l'habitude les années précédentes d'essayer d'intégrer un petit peu ça dans des sortes de petites préfaces aux séances suivantes. Et puis je me suis dit cette année que je pouvais peut-être procéder autrement, c'est-à-dire stocker ces questions, ces suggestions, et imaginer à partir de là, si personne n'est découragé, de construire un séminaire l'année prochaine, avec qui se structurerait comme une sorte de petit abécédaire, à partir des notions dont je vois qu'elles sont matière à attention particulière. Voilà. Donc je vais aujourd'hui, sans revenir sur les éléments de discussion de la précédente séance, entamer celle-ci, qui serait la troisième. Je me dis que le séminaire de cette année aura eu trois séances, donc celle-ci étant la dernière, dans laquelle j'aurais posé des éléments qui vont ensuite me permettre d'engager un raisonnement davantage discursif, enfin avec une ligne plus particulière. Alors, c'est ça mon deuxième petit point d'annonce procédurale pour ce soir. Je vous propose ce soir de chercher à définir ce que commun veut dire, en tout cas pour moi. Hein. Qu'est-ce que je mets dans ce mot? Et je pense qu'à partir de là, je pourrais justement annoncer la ligne de raisonnement qui sera celle des séances prochaines. Donc je commence. Selon les informations du dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, commun et migrant, mais aussi muant, mutant et d'autres mots de cette famille, ont une racine commune. Communs, migrants, muants, mutants, etc., ont une racine commune dont on entend l'écho dans la terminaison, main du mot commun, la racine main. De mon côté, je pense depuis longtemps que ce qui caractérise le commun, c'est tout un grouillement existentiel instable qui ne cesse de bricoler. Je reviendrai sur le bricolage ultérieurement. Donc je pense depuis longtemps que ce qui caractérise le commun, c'est tout un grouillement existentiel instable qui ne cesse de bricoler, parfois de façon inventive, les conditions de vie ou avec les conditions de vie. Ce que je désigne en fait par cette manière de dire, un grouillement existentiel instable qui ne cesse de bricoler avec les conditions de vie, ce que je désigne par cette manière de dire, c'est le caractère technicien de l'animal humain. Il appartient à cette espèce d'animal, nous autres les humains, il appartient à cette espèce d'animal de faire quelque chose au monde. Et au fond, d'en pousser, d'en bouger même la nature. Hein, bouger même la nature de ce monde. Ou on pourrait peut-être juste garder la formule, il appartient à cette espèce d'animal de pousser, de bouger la nature même des choses. Je fais allusion par cette formule, en fait, à une très vieille définition de la technique que j'ai trouvée chez Aristote. La question du despotisme et de la dianoïa, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la première séance, j'avais rappelé que ces mots sont liés chez Aristote. Il me semble avoir lu dans la politique que quand il définit ce que c'est que le despotisme, il lie ça au fait qu'il y en a un qui s'accapare ce que le texte grec appelle dianoïa. J'avais dit la capacité d'envisager éventuellement de commencer à prendre l'initiative par le fait d'envisager. Et le despote est celui qui envisage pour ou à la place de l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette proposition de définition. Donc la question du despotisme et de la dianoïa accaparée ou privatisée par le despote, dans la situation despotique. Hein, qu'est-ce que c'est que le despotisme ? C'est une situation dans laquelle la capacité de prendre l'initiative et d'envisager le faire au monde est privatisée ou accaparée, c'est peut-être mieux de dire ça pour commencer, par certains, au singulier, au pluriel, à la place et pour d'autres. À la place d'autres et pour les autres. Donc la question du despotisme et de la dianoïa accaparée ou privatisée tient au sort donc de l'initiative quant au faire dont je viens de dire qu'il était caractéristique de l'animal humain qui ne peut pas ne pas toucher au monde, faire quelque chose au monde. Je vais dire ce soir, à ma façon, au sujet de ce que je viens d'appeler initiative, ce que, je crois, Bernard Friot dit très bien de son côté en économiste. Ce que je vais dire et qu'il dit très bien de son côté en économiste, c'est que, quoi qu'on ait eu tendance à penser, en particulier depuis les Lumières, l'initiative, fondamentalement, anthropologiquement, n'est pas réservée au génie, et aux esprits qui se supposent eux-mêmes éclairés. Je fais allusion par cette phrase à une critique que j'ai depuis longtemps dans la tête, par laquelle, je sais pas comment dire ça, je conteste la superbe avec laquelle quelqu'un comme D'Alembert ou même Condorcet ont pu traiter les bricolages humains. Hein, où ils disent « oui, il y a les génies, c'est ça qui compte ». C'est ça qui est important. Et puis oui, il y a la plupart des gens, les petites gens finalement, bon, c'est pas rien, ils bricolent, ils touchent un peu aux choses, mais enfin, ce qui compte, c'est quand même les opérations qui ont vraiment l'initiative et qui sont l'affaire de génie, qui sont donc pas tout le monde. Voilà. Donc je me place pas dans cette ligne de pensée, ou j'essaye de ne pas me placer dans cette ligne de pensée, et je dis que, quoi qu'on ait eu tendance à penser depuis les Lumières, l'initiative n'est pas anthropologiquement ou a priori, si vous voulez, réservée aux génies et aux esprits qui se supposent eux-mêmes éclairés. Elle ne l'est pas non plus réservée aux seuls esprits, quels qu'ils puissent être, qu'on estimerait capables de situer avec justesse, c'est-à-dire convenance et justice tout à la fois, ce qu'ils entreprennent de faire. C'est-à-dire que on peut poser a priori que l'initiative est un fait que l'animal humain ne peut pas ne pas opérer, sans pour autant savoir, comme on dirait dans un langage plus courant que le mien, ce qu'il fait, et en tout cas poser, parce que a priori il serait, je sais pas comment dire ça, adapté à cette opération même, ce qu'il ferait, il le ferait toujours avec convenance et justice à la fois, ce que je résume dans le mot justesse. Les humains sont des bricoleurs inévitables, mais pas forcément des bricoleurs judicieux, opérant avec justesse. Ils opèrent. Non, au premier sens du mot, l'initiative qui conduit au faire quelque chose au monde, au premier sens du mot, cette initiative, pour moi, dans mon langage, depuis longtemps, c'est une industrie. Je vais redéfinir ce terme ce soir. C'est une industrie qui est dispersée. C'est quelque chose comme une sécrétion qui n'est pas nécessairement de l'ordre d'un projet, qui n'est pas ni n'aura pas été d'avance cohérente, mais qui aura connu des bifurcations inattendues et aura bien plutôt émané ici et là, d'abord naturellement, pour ainsi dire, de fait en tout cas, comme ça peut, plutôt que comme il faudrait, qui aura donc émané ici et là de la configuration morphologique du vivant humain. Je pourrais essayer de résumer ce que je viens de dire là en disant morphologiquement, l'animal humain ne pouvait pas ne pas être industrieux. Je fais allusion, j'ai une note de bas de page, par ces phrases, au commencement de la vie humaine, aux données morphologiques de cette vie, telles qu'elles sont analysées par des gens comme le roi Gourand, le geste et la parole, ou plus récemment dans les ouvrages de Michel Guérin, je pense en particulier au livre de Michel Guérin qui s'intitule simplement « Le roi Gourand », et puis un livre plus récent qui s'intitule « La troisième main ». Le caractère insituable et dispersé que je signale pour cette affaire d'industrie humaine ou de bricolage humain ne cesse, à mon avis, de valoir aujourd'hui encore ou de nos jours. Même les inventions les plus récentes, qu'on pense à la photographie ou à l'intelligence artificielle, continuent, quoi qu'on dise, pour justifier un régime d'appropriation, à vérifier cette propriété, qu'elles se font au fond de manière inattendue, c'est-à-dire sans qu'on sache ce qu'elles vont donner à terme. C'est pas un projet. Voilà. L'industrie foncière de l'animal humain, ça n'est pas un projet. Endo, le endo que vous entendez de l'industrie, s'oppose au pro du projet. Je ne sais pas comment dire ça linguistiquement. Il serait sans doute, je sais pas, mieux de dire l'industrie de l'espèce humaine procède de la tendance naturelle de cette espèce qui ne peut pas ne pas opérer dans le monde, donc toucher au monde et toucher à ses propres conditions d'être dans le monde. Il en résulte, si je raisonne bien, il en résulte ceci, que tout humain, ça, c'est un point important pour ce soir et pour les séances prochaines, de ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que l'industrie est une caractéristique inévitable de l'espèce humaine. Il en résulte que, me semble-t-il, si on est cohérent, que tout humain dont se trouve ou se trouverait réduite la capacité d'opérer des changements et des bouger dans le monde, y compris des changements et des bougers dans les processus opératoires eux-mêmes, ou, pour le dire autrement, il en résulte que tout humain dont se trouve ou se trouverait réduite la capacité de modifier, y compris ce qui résulte déjà d'une modification, hein, modifier les modifications des générations antérieures, hein, tout humain qui se trouverait donc réduit dans sa capacité d'opérer des changements, des bougers, des modifications, y compris de bouger, modifier ce qui résulte déjà de modifications, se trouve ou se trouverait lui-même restreint dans son humanité. Tout humain qu'on empêcherait ou qui se trouverait empêché de toucher au monde, de faire quelque chose au monde, au fond, si je suis réflexions anthropologiques, par exemple, de Leroy Gourand, moi j'en déduis que cet humain empêché de toucher au monde, d'une manière ou d'une autre, se trouve en fait restreint dans son humanité. Alors toute cette thèse repose, je le répète encore une fois, sur l'idée que l'être humain au monde, que la modalité humaine d'être au monde, implique nécessairement, par nature, je ne sais pas si je suis toujours diffusé.
Oui.
Si ? Bon, parce qu'il y avait un petit problème sur l'écran. Hein. Toute cette thèse repose sur l'idée que l'être humain au monde, que la modalité humaine d'être au monde implique nécessairement par nature, donc, je le répète, une industrie. Le problème, me semble-t-il, non pas de toute société industrieuse, mais de la société industrielle stricto sensu, c'est-à-dire celle que nous connaissons depuis les Lumières, c'est qu'elle a capitalisé l'industrie. Je pose comme un problème de cette société qu'on peut appeler stricto sensu la société industrielle. Son problème, le problème de cette société, c'est qu'elle a capitalisé l'industrie, c'est-à-dire qu'elle en a réservé ou concentré l'initiative, ou, ce qui revient au même, elle a privé beaucoup de pouvoir l'avoir. Elle a fabriqué des employés en nombre. Reste que nous, qui sommes libres de penser, nous pouvons penser l'industrie sans en focaliser seulement là la définition. C'est-à-dire, nous pouvons, en tout cas c'est ce que je propose, nous doter d'une notion d'industrie qui n'est pas focalisée sur la signification qu'a pris le terme depuis la société industrielle et dans la société industrielle. Donc je vous propose de réfléchir largement à la notion d'industrie. Alors faisons-le. Dans cette ligne de pensée-là, chez un penseur comme Rousseau, qui va me servir de référence une fois de plus ce soir, chez un penseur comme Rousseau qui, pour le dire en passant, voyait bien venir la société industrielle et la voyait venir sans s'en réjouir, ni y voir un particulier progrès, il ne la pensait pas comme un progrès, même s'il la voyait venir. Donc chez un penseur comme Rousseau, le mot « industrie » est utilisé de fait, sinon explicitement compris, de manière très générale. Quand il emploie le mot « industrie », c'est dans un sens très général. Il désigne, il faut juste lire patiemment les textes de Rousseau et voir quand le mot « industrie » apparaît de fait dans les textes, et à ce moment-là, quelle est sa signification. Bon. Il désigne de fait chez Rousseau, il désigne encore de fait chez Rousseau, ce que fait un être que je vais appeler en défaut d'origine. Alors j'emprunte cette formule, on peut dire que je l'emprunte à Bernard Stiegler, on peut dire qu'on en avait un peu discuté à une époque, et que quand même je vais l'interpréter à ma façon. Donc le mot industrie désigne chez Rousseau ce que fait un être en défaut d'origine, ce que j'interprète comme signifiant un être qui, d'une part, ne cesse pas de commencer, il est en défaut d'origine, il n'a pas d'origine. Donc il commence sans cesse. Est-ce qu'on peut essayer de penser l'être humain comme un être qui ne cesse de commencer parce qu'il est en défaut d'origine? Si on a une origine, on ne commence pas, on continue. On s'installe dans une lignée, si vous voulez. L'idée rousseauienne ou rousseauiste du défaut d'origine, je l'interprète comme signifiant que l'être, donc en défaut d'origine, l'humain, l'animal humain, ne cesse pas de commencer. Première interprétation, premier niveau d'interprétation de la formule, c'est un être en défaut d'origine. Deuxième niveau, donc il ne cesse pas de commencer. Il commence incessamment. Deuxième niveau, il est en défaut d'origine, ça veut dire aussi il est défectueux en tout début et à chaque fois qu'il commence, c'est-à-dire tout le temps, puisqu'il ne cesse pas de commencer. Il est défectueux en tout début et à chaque commencement. Deuxième niveau d'interprétation de la petite formule, c'est un être en défaut d'origine. Et enfin, troisième niveau, il ne saurait être parfait et parfaitement adapté au monde, sinon dans un imaginaire, l'idée que l'être humain soit parfaitement adapté à son monde n'existe que dans un imaginaire, puisqu'il est, il ne cesse de commencer, il n'est donc jamais accompli, il n'est donc jamais parfait, aller au bout de quoi que ce soit. La perfection, littéralement, c'est ça que ça veut dire, aller au bout. Donc il ne va jamais au bout, il commence tout le temps, il ne va jamais au bout. Et donc, il n'est, au terme de rien, sinon dans un imaginaire, imaginaire dans lequel il peut se rêver comme dispensé d'avoir à faire quelque chose, hein, d'avoir à commencer à faire quelque chose. Mais cette représentation d'un humain qui n'aurait plus à commencer à faire quelque chose, elle n'existe que dans un imaginaire qui peut être le paradis adamique, le paradis autrefois ou pour plus tard. Ou bien ce que Rousseau savait très bien être chez lui-même une hypothèse l'état de pure nature, dont il dit lui-même, donc là, dans l'état de pure nature, l'être humain ne fait rien, mais Rousseau dit l'état de pure nature, ça n'a jamais existé. Il le dit lui-même. C'est une fiction que j'ai besoin de construire pour faire comprendre des choses à mes lecteurs, mais je sais très bien que ça n'a jamais existé. L'être humain réel aura toujours été en défaut d'origine, c'est-à-dire jamais parfaitement adapté au monde, n'ayant rien à faire dans ce monde. Voilà. Sinon, se laisser aller à sa propre vie. Ou bien qu'il s'agisse encore, je pense que les ingénieurs ont rêvé de ça, enfin moi j'entends des discours d'ingénieurs des années 60 qui rêvaient de développer la production jusqu'à amener le paradis sur Terre. Et peut-être que c'était d'ailleurs au rêve, dans le rêve de certains entrepreneurs qui sont à la base de la société industrielle. Hein. On va apporter, en décuplant la production, le bonheur sur Terre et les gens n'auront plus rien à faire au bout d'un certain temps. Voilà. L'histoire n'a pas vraiment confirmé, hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà les trois niveaux d'interprétation de la petite expression « Qu'est-ce que l'être humain au monde ?» C'est un être en défaut d'origine. Donc je répète, il ne cesse de commencer, il est défectueux en tout début et à chaque commencement, et enfin, il n'est jamais parfait et parfaitement adapté à quelque monde que ce soit. Il commence et recommence sans cesse. C'est l'histoire, ça, au fond. Pareil défaut d'origine, me semble-t-il, préoccupe d'avance, donc, et aussi préoccupe au sens plus banal du terme. Nous sommes préoccupés, ça nous préoccupe, ce défaut d'origine qui nous constitue. Pareil défaut d'origine préoccupe et ne cesse d'occuper l'animal par lui concerné, donc nous autres, les humains, à savoir donc nous autres, les humains, je viens de le dire. Le défaut d'origine qui préoccupe et ne cesse d'occuper l'animal humain empêche cet animal de vivre au jour le jour, de compter sur le présent pour vivre. C'est une autre caractéristique de l'être en défaut d'origine qu'on trouve chez Rousseau. Il ne peut pas vivre au jour le jour. Seul l'être de pure nature, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, etc., qui est une fiction qu'on peut construire pour raisonner, mais qui, bon, seul cet être hypothétique, imaginaire, pouvait être pensé comme vivant au jour le jour, mais l'homme réel, l'humanité réelle, ne peut pas vivre au jour le jour. Elle ne peut que commencer des tâches auxquelles elle ne peut elle-même échapper, qui ne sont jamais parfaites, qu'il faut recommencer, etc., etc. Donc l'animal en défaut d'origine, nous autres, ne peut vivre au jour le jour, ne peut compter sur le présent, sur nul présent pour vivre. Il y aura toujours à commencer et à recommencer quelque chose. Ainsi, l'animal en défaut d'origine se lie-t-il, je reviens là littéralement du côté de Rousseau, à la notion de prévoyance. C'est-à-dire dire qu'on est en défaut d'origine, c'est dire en même temps, en tout cas c'est ce que je lis chez Rousseau, qu'on ne peut pas ne pas être dans la prévoyance, dans la prévoyance. Alors ce n'est pas la même chose que le projet, parce qu'en fait prévoyance chez Rousseau, ça c'est un peu compliqué sur le plan des mots, ça ne veut pas dire prévision, c'est une façon à lui de traduire, je crois, en tout cas c'est comme ça que je le lis, le concept grec qu'on trouve chez Aristote de prudence. Donc l'être en défaut d'origine ne peut pas ne pas être prudent. Il a, comment dire ça, pour être simple, ben, quoique la formule, je veux dire, ne me convienne pas tout à fait, mais il a besoin d'être prudent, hein, pour pas se perdre dans ses commencements et ses recommencements, ou pas trop. Bon. Enfin, c'est pas bien dit de le dire comme ça, mais bon. Au passage, je pense que c'est l'erreur du monde ingénierial que de penser qu'on pourrait ne pas être prudent. Autrement dit, c'est l'erreur du monde ingénierial que de penser que l'imprudence pourrait s'annuler dans un savoir-prévoir, dans une prévision. Alors les ingénieurs ne cessent de faire des prévisions. Hein. Et d'une certaine manière, c'est comme si on pensait qu'on peut annuler la prudence. L'homme prudent, c'est pas l'homme qui sait ce qui va arriver. c'est l'homme qui sait, c'est celui qui sait, c'est l'humain, je veux dire, qui sait que beaucoup de choses sont possibles, y compris, évidemment, l'imprévu. Alors, par exemple, qu'une centrale atomique soit attaquée par une énorme vague et qu'il lui arrive des problèmes qui étaient... qui sortaient des statistiques du prévisible. Voilà. Bon, pourtant, ça a eu lieu. La prudence, ou la prévoyance au sens de Rousseau, concerne l'être, en défaut d'origine. La prudence, ou la prévoyance chez Rousseau, concerne l'être qui sait le temps ouvert devant lui, mais sans savoir de quoi cette ouverture sera faite. Je crois pouvoir noter au passage qu'il y a là quelque chose de cohérent, conceptuellement parlant, parce que si ce qui va occuper le temps qui vient pouvait être prévu, alors ce temps ne serait pas ouvert. Donc l'animal ou l'être en défaut d'origine, il ne cesse de commencer, il est voué d'une certaine manière à la prudence, c'est-à-dire il sait pas ce qui va avoir lieu, donc il ne connaît pas le temps qui vient, mais il sait justement que le temps est ouvert, toujours ouvert. Et c'est pas la peine de prévoir, dans une certaine mesure. Enfin, je dis ça peut-être de manière excessive. L'être prudent, l'être qui a à être prudent, est donc, si je raisonne bien, aussi un être inquiété par le temps, inquietus. En latin, ça veut dire pas tranquille, qui se repose pas. Donc l'être prudent, l'être qui a à être prudent, est en fait un être inquiété par le temps, et justement c'est cette inquiétude qui l'active et le conduit à faire quelque chose, qui d'une certaine manière est une tentative de réponse à son inquiétude foncière. Il fait quelque chose, cet être, non pas pour combler, quand bien même il lui arrive de l'espérer, son défaut d'origine, mais pour y suppléer. Alors, si vous n'êtes pas, enfin, j'espère que vous n'êtes pas fatigué, parce que ça, il y en a encore pour un petit moment dans la soirée, mais je voudrais, évidemment, c'est très abstrait, évidemment, dans un premier temps, on peut se demander à quoi bon toutes ces méditations, mais quand même, Je pense important que nous essayions de penser qu'est-ce que ça veut dire suppléer. L'être en défaut d'origine doit suppléer sans cesse à son défaut d'origine. C'est peut-être ça le travail, au fond. Bon. Seulement cette suppléance, et là encore c'est conceptuellement cohérent, me semble-t-il, elle est sans fin. En tout cas, je pourrais dire, je peux prendre cette phrase à mon compte, ou je peux dire, c'est chez Rousseau. C'est pensé comme ça chez Rousseau. Donc faire de l'histoire de la philosophie, tout simplement. Mais je pense que je lis Rousseau parce que ça m'importe prodigieusement de pouvoir dire des choses, comme ça. La suppléance, qui au fond est notre affaire. À nous autres qui sommes des animaux en défaut d'origine, etc., hein, qui ne sont pas réglés originellement, cette suppléance, il m'importe de dire qu'elle est sans fin. Elle a lieu sans cesse. Il y a eu, il y a toujours, il y aura encore à suppléer. Nous n'en avons jamais fini avec nos tâches. Mais suppléer, ça ne veut pas dire agrandir sa zone opératoire. Ce n'est pas faire plus. La suppléance que je lis chez Rousseau, la notion de suppléance que m'invite à formuler les textes de Rousseau, je ne crois pas qu'il faille la comprendre comme un agrandissement de la zone opératoire. Ça n'est pas faire plus, ni, pour reprendre une expression cette fois trouvée chez Benjamin, seulement approvisionner davantage un mode ou un appareil de production qui est déjà donné. Suppléer, c'est recommencer et encore une fois modifier. Pas fournir plus, pas faire plus. Hein. Mais d'une certaine manière, en tout cas tôt ou tard, faire dans une autre direction. Dire qu'il y a toujours à suppléer et que nous sommes incessamment voués à une prudence elle-même sans fin, c'est dire à la fois qu'on ne saurait cesser d'opérer et à la fois qu'on ne saurait arrêter cet opérer au mode d'opérativité déjà éprouvé précédemment. Il en va dans toute cette affaire d'un changement de qualité, toujours, dans le faire, dans la façon de construire ou d'amener à être impossible qu'on ne saurait penser en termes de continuation dans le même sens, de progrès linéaire ou d'ajout permanent. Je veux dire profondément pour le moment. Nous sommes voués à changer de monde constamment. Voilà. Et donc, à changer nos opérations, nos modes, et même nos modes d'opérativité, la suppléance à laquelle nous sommes, je ne sais pas comment dire, condamnés, dans une certaine mesure, par la structure même de notre espèce de vivant, de l'espèce de vivant que nous sommes, implique qu'il y ait incessamment des changements de qualité dans le faire, dans la façon de construire ou d'amener à être impossible, en deux mots, hein, impossible qu'on ne saurait penser en termes de continuation dans le même sens, en termes de progrès linéaire ou d'ajout permanent. Ainsi puis-je noter au passage, ou vous demander de noter au passage, qu'une soustraction n'est pas moins une opération qu'une addition. Donc il ne s'agit pas d'ajouter toujours dans le même sens ou d'en faire plus, etc. On pourrait aussi bien se dire que ce que nous pourrions commencer à faire, c'est soustraire plutôt qu'ajouter, pas continuer. Diversifier, etc. En tout cas, la soustraction elle-même, je la pense comme une opération, autant qu'une addition. Et peut-être puis-je remarquer au passage que ce qui est notre affaire aujourd'hui, c'est de suppléer à la surproduction, dans le sens que j'essaye de vous dire depuis quelques minutes, notre affaire aujourd'hui, c'est peut-être de suppléer à la surproduction dans laquelle se trouve le régime de suppléance, ou si vous voulez, l'économie qui s'est mise en place depuis le XVIIIe siècle. Je pense que depuis le XVIIIe siècle, justement, on pense le produire dans une ligne d'ajout permanent, continuons dans le même sens, voilà. Et que donc, pour le dire dans un mot, je ne sais pas, benjaminien, en fait, la question de la bifurcation est la question qui se pose. Voilà. Il me semble, voilà. Et dit dans le langage de ce soir, ça veut dire que notre affaire aujourd'hui, c'est de suppléer, au sens que j'ai essayé de préciser, à la surproduction, dans laquelle se trouve le régime de suppléance, autre manière de dire économie, qui s'est mise en place de façon capitalistique, si vous voulez, depuis le XVIIIe siècle. Alors, je reviens au commun. C'est, me semble-t-il, parce qu'il y a toujours à suppléer que je pouvais dire précédemment, essentiellement commun à toutes les générations humaines, ce que je ne cesse d'appeler changement ou modification. Ce qui nous est commun, c'est de changer le monde. Le plus commun, enfin, parmi le plus commun, il y a ça, la modification, le changement sans cesse du monde, et pas la continuation dans la même direction. Chez Rousseau, ce commun-là que je viens de vous dire est nommé perfectibilité. Je reprends ma phrase. Il me semble que je peux dire commun ce que j'appelle par ailleurs changement ou modification. Le fait que le changement ou la modification soit commun, Rousseau le nomme, il me semble. Évidemment, il faudrait que je fasse de très longues lectures de textes pour justifier cette lecture. Bon, disons que c'était l'affaire de cours que j'aurais fait à une époque à l'université et que là, je fais un résumé Chez Rousseau, donc, le commun est nommé perfectibilité. Mais là encore, entendons-nous sur un mot qui prête probablement à malentendu. Rousseau ne partage pas le progressisme des Lumières. Par exemple, si vous voulez vous faire une idée de ce que c'était qu'un progressiste à l'époque des Lumières, vous lisez Condorcet. Alors, texte qui est écrit après Rousseau, je sais bien, mais enfin, disons, pour avoir l'ambiance de l'époque, hein, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'entendement humain. Donc là, vous avez un texte dans lequel la notion de progrès est au centre de la pensée. Donc Rousseau ne partage pas ce progressisme-là. Il dit que l'humanité est perfectible, sans cesse. Voilà. Perfectible, ça ne veut pas dire parfaite. Ça veut dire précisément qu'elle est toujours perfectible. Donc jamais accomplie. Donc jamais parfaite. Donc, je reprends mon raisonnement, voué au changement, au recommencement, etc., etc. D'ailleurs, Rousseau ne dit pas que l'humanité progresse. Il dit, je répète, qu'elle est perfectible. Et s'il vous plaît, c'est le suffixe qu'il faut bien entendre dans ce mot « perfectible ». Ce suffixe signifie que la perfection, c'est-à-dire l'accomplissement ou l'achèvement, n'est jamais atteinte. Donc, je reprends mes mots, il n'y a pas d'industrie humaine qu'on soit véritablement fondé à dire, sinon parce qu'on forcerait la pensée, définitive ou irrémédiablement mise au monde. Nous pouvons par conséquent dire, par inversion de la thèse en quelque sorte ou par réciproque, il me semble que, en tout cas c'est ce que je vous propose, pour ce soir au moins, de dire par inversion de la thèse que je viens d'essayer de présenter, que tant vers l'inhumanité, toute situation dans laquelle à la gouverne, à l'administration, ou comme vous voudrez, à la dispense de l'industrie qui fait exister l'humanité comme telle, les industrieux ne sont pas eux-mêmes conviés. Tant, je vous répète cette phrase si vous voulez, parce que je vois que vous levez les visages étonnés. Nous pouvons dire, il me semble, en réciproque de tout le raisonnement que j'ai essayé de construire depuis quelques minutes, que tant vers l'inhumanité, toute situation dans laquelle à la gouverne de l'industrie qui fait exister l'humanité comme telle, que l'humanité ne peut pas ne pas être, opérer quelque chose dont le nom juste serait industrie. Bon. Nous pouvons dire que tant vers l'inhumanité, toute situation dans laquelle la gouverne de cette industrie foncière de l'être humain au monde, les industrieux eux-mêmes ne seraient pas conviés. Ceux qui pensent, à l'inverse, que pareille situation mérite d'exister, c'est-à-dire qu'il est bon qu'il y ait des gens qui ne soient pas des opérateurs. Alors, je peux être plus clair. Il y a des gens qui... Pour moi, c'est ce que je suis en train de définir et de critiquer à la fois, c'est la situation de l'employé. L'employé, pour moi, n'est pas un opérateur. Hein. Il est assigné à un faire dont il n'est pas l'opérateur. Il n'est pas celui qui a défini le faire en question. Celui qui a défini le faire en question, c'est le despote hein, qui le gouverne. Dans sa propre activité industrieuse. Donc, je pense que je peux, en toute logique, selon la lecture de Rousseau que je vous ai proposée, dire que tendrait vers l'inhumanité toute situation dans laquelle à la gouverne de l'industrie, les industrieux eux-mêmes ne sont pas conviés. Hein, à l'initiative, si vous voulez, les industrieux eux-mêmes ne sont pas conviés. Ceux qui pensent que pareille situation mérite d'exister, c'est-à-dire qu'il est bon que certains d'entre nous ne définissent pas leurs conditions de travail, pour le dire tout simplement. Ceux qui penseraient comme ça, il y en a qui pensent comme ça, soutiennent aussi, en fait, que l'économie de l'industrie est fondée à se mettre hors d'atteinte des communs. Il y a ceux qui pensent que les humains sont conviés à opérer tous, et il y en a qui pensent que c'est mieux que certains soient plus décideurs en matière d'opération que d'autres. Ben, ceux-là, au fond, ils pensent que, ils soutiennent en fait une idée selon laquelle l'économie de l'industrie, la façon de l'organiser, de l'administrer, de la distribuer, etc., ceux-là pensent que l'économie de l'industrie est fondée à se mettre hors d'atteinte des communs. Et donc elle cesse d'être commune, tout simplement. Et qu'elle a pour cela, d'une manière ou d'une autre, fait une part acceptable au non modifiable et à l'intouchable. À tout le moins, elle a réservé la possibilité, elle a mis en réserve la possibilité de modifier et de toucher. Est-ce que je suis clair ? En écrivant cette phrase, j'ai mis en note de bas de page, je ne peux pas ne pas penser à la façon dont nous sommes aujourd'hui. Alors, il y a plein d'autres situations auxquelles je pourrais penser, mais bon, je ne peux pas ne pas penser aussi à la façon dont nous sommes, par exemple, gérés et administrés à l'aide de questionnaires et autres, comme on dit aujourd'hui, agents conversationnels. Notez bien l'expression, les agents conversationnels. Je ne peux pas ne pas penser à la façon dont nous sommes gérés et administrés à l'aide de questionnaires à la disposition desquels nous sommes. Ce n'est pas nous qui disposons des questionnaires que nous remplissons. C'est des questionnaires qui disposent de nous. Tu vas répondre dans cette case, en tant de caractères et pas plus, etc., dans un ordre de questions dont tu ne connais pas la fin au début du questionnaire, etc., etc. Oui. Ça, c'est une situation dans laquelle moi qui dois remplir le questionnaire, je suis mis hors d'état de toucher au questionnaire lui-même, c'est-à-dire d'opérer au sens que j'essaye de définir ce soir. Hein, je suis employé du questionnaire, tout simplement. Voilà. Je ne veux pas ne pas penser à ça. Et nous sommes conviés à inscrire, au fond, nos informations, les informations que nous délivrons, dans une place et selon une manière qui est prévue. Voilà. Et qui nous retire la possibilité de travailler. Et nous savons très bien, à chaque fois que nous sommes astreints par des questionnaires de ce type, nous savons bien que nous souffrons parce que nous ne pouvons pas les travailler, ces questionnaires. Voilà. Il y a bien d'autres situations qu'on pourrait évidemment évoquer, à commencer par la situation des ouvriers de l'industrie textile du 19e, des mineurs dont j'ai lu les conditions de travail en Afrique du Sud ces temps-ci, épouvantable, etc., etc. C'est ça que j'appelle l'inhumanité d'une économie qui pense qu'on peut réserver la possibilité de modifier et de toucher. Tous ces gens auxquels je pense, nous-mêmes, quand nous remplissons des questionnaires, nous sommes mis hors de situation de toucher au monde avec lequel pourtant, ou dans lequel pourtant, nous devons vivre. Et nous sommes nous sommes mis hors de pouvoir atteindre le monde. Cette mise hors d'atteinte des communs que nous sommes correspond à ce que je nomme despotisme depuis le début de ce séminaire. Le despote est celui qui se met hors d'atteinte des communs et qui met les communs hors d'atteindre eux-mêmes, si j'ose dire, leurs opérations ou les opérations auxquelles ils prêtent la main dans le monde. Toute question concernant l'émancipation devrait, me semble-t-il, être liée à cette affaire d'intouchabilité d'un élément au moins de la production, de ses conditions et de ses résultats. C'est bien là dire que la notion même d'émancipation est économique, pour moi, en tout cas, avant d'être politique. Bon, ça va quand même ? Alors, revenons, si vous voulez, à la définition du commun. Je répète, une industrie que peu sont en mesure de modifier dans son cours n'est par définition pas commune. C'est ce que j'espère avoir un peu donné à penser dans les minutes qui précèdent. Une industrie que peu sont ou seraient en mesure de modifier dans son cours n'est ou ne serait par définition pas commune, quelle que soit par ailleurs, l'ampleur et la quantité des produits qu'elle parvient à répartir dans le monde. Alors on peut dire, aujourd'hui, nous avons affaire à une industrie surproductive, extrêmement productive, qui répand des biens, entre guillemets, des objets, en tout cas partout dans le monde. Donc elle nous concerne tous. Enfin, nous sommes tous concernés par cette énorme capacité de production. Néanmoins, je dis conceptuellement, au moins, si vous voulez, que cette industrie, bien qu'elle nous, de certaine manière, elle nous atteigne tous dans une certaine mesure, elle n'est pas commune. Voilà. Il y a quelque chose de pas commun dans cette affaire. Le pas commun dans cette affaire, c'est que nous ne l'administrons pas. Elle s'administre de façon privatisée. Voilà, pour revenir à un langage que je prenais en début de séance. Donc cette industrie, elle est, je le répète encore, despotique. Et c'est précisément contre ce despotisme-là que je vous propose de soutenir à contrario, que je vous proposerai de soutenir à contrario, notamment en pensant à la notion de tactique telle que définie par Michel de Certeau, sur qui je reviendrai dans une autre séance. C'est contre ce despotisme-là que je vous propose de soutenir à contrario qu'il est commun, qu'il est essentiellement commun de faire migrer par modifications successives les situations opératoires. Il doit être clair que je ne suis pas en train de reprendre à l'instant le lexique de la migration dans son sens actuellement le plus usité, mais que je le reprends dans sa relation à une plus ancienne famille de mots, famille où se trouve, par exemple, la notion de mu, commuer, commuter, permuter, sont aussi de cette famille. C'est la famille de commun. Le champ sémantique global de toute cette famille de mots est celui du changement, et il s'oppose aux valeurs signifiées, à l'inverse, par le fixe, l'assigné ou le bloqué. Tout le monde peut m'accorder ça. Le muant, le mutant, le permutant, etc. Ce n'est pas le fixe, l'assigné, le bloqué. Ce que je voudrais établir à présent, c'est que ces dernières valeurs ne sont pas des fins pour ce que je vais appeler précisément, aussi précisément que je peux, l'existence. Le fixe, l'assigné, le bloqué ne sont pas des valeurs pour l'existence. Inversement, par conséquent, la commutation, la permutation, le changement, la modification, etc., sont des valeurs pour ce que je vais appeler l'existence. Comment jugerions-nous en effet une personnalité qui, fixée, assignée, bloquée, se trouverait dans l'incapacité de changer, jamais, non seulement ses réponses aux sollicitations du monde des autres, mais encore son mode même, voire sa capacité de réponse à ces sollicitations. D'une personnalité fixée, assignée, bloquée, nous pourrions dire, enfin moi j'aime bien cette formule, sa vie n'est pas une existence. Cette vie-là n'est pas une existence. Voilà. C'est une vie dans laquelle précisément il n'y a pas existence parce qu'il y a blocage, fixation, etc. Qu'une vie qui est une existence, c'est une vie dans laquelle ça peut bouger. Y compris la personne, bien entendu, la personnalité. Un humain que aucune modification n'affecterait, qui ne ferait que subsister. Sub, c'est le contraire de ex. Subsister, exister. Un humain que nulle modification n'affecterait, qui ne ferait que subsister dans son état, ne pourrait être dit, à mon sens, à proprement parler, existant. J'existe aussi longtemps que j'échappe, même à mes propres yeux, à la stricte définition de mon être, à sa localisation et à son assignation aussi bien. J'existe, je ne sais pas pour dire ça en faisant référence au mot de tout à l'heure, j'existe, si je pense à ce que je vais vous dire dans quelques secondes, mais j'existe aussi longtemps que je ne suis pas fini. Méditez sur cette phrase. J'existe aussi longtemps que je ne suis pas fini. Et justement, l'être hors défaut d'origine de Rousseau, il n'est jamais fini. Voilà. Et tant que je ne suis pas fini, j'existe. Et dès lors que je serai, aïe, défini, Il y a quelque chose, je peux toujours être vivant, mais existant, c'est pas sûr. J'existe aussi longtemps que j'échappe, même à mes propres yeux, à la stricte définition de mon être, à sa localisation et à son assignation aussi bien. Quand ou si je ne trouve pas l'espace de cette échappée, quand je perds ou si je perds ipso facto ma capacité à la mobilité psychique, aussitôt je me névrose et d'une certaine manière aussi je me nécrose. Il en va, si je perds ma capacité à la mobilité psychique, il en va pour moi d'une petite mort, névrose, nécrose, car la mort met un terme à toute mobilité psychique aussi bien que physique. Donc dès que je ne peux pas bouger dans ma personnalité, c'est comme une petite mort. Mais avant même la mort ultime, la mort qui aura raison de moi, avant même la mort ultime, déjà, notez-le, c'est une remarque au passage, ce qu'on appelle, on en parle ces temps-ci, la fin de vie, sans toujours entendre, à mon avis, ce qu'on dit littéralement là. Donc, ce qu'on appelle la fin de vie peut être, à mon sens, défini comme un temps dans lequel, précisément, le sujet perd sa vivacité, la personne perd sa vivacité, c'est ça la fin de vie. C'est quand je perds en vivacité. La fin de ma vie, c'est quand je perdrai en vivacité, parce que je serai coincé, bloqué, fixé, coincé dans une situation et un état auquel je ne pourrai plus me soustraire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fin de vie. Voilà. Ben, c'est plus une existence. Ou plutôt, je pourrais dire, à la fin de vie, le sujet en fin de vie manque à la vivacité existentielle parce qu'il est bloqué dans une vie que tout un jeu d'ordonnances, écoutez le mot, les ordonnances. Voilà. Le sujet en fin de vie manque à la vivacité existentielle parce qu'il est bloqué dans une vie que tout un jeu d'ordonnances soignantes prescrit, prescription médicale, de plus en plus rigoureusement, et qui, pour cette raison, cesse d'être pour lui une existence. Je ne suis plus qu'entouré de prescriptions dans la fin de ma vie. La fin de vie d'un humain, ça n'est plus que de la vie dans un humain. Et en fait, ce qui compte pour nous, c'est d'être des existants dans la vie, et pas seulement des vivants. Et ça, je crois que ça se lie à tout ce que j'ai essayé de vous dire depuis le début de cette, depuis le début de cette soirée, au fait que ce qui est fondamental pour nous, c'est de pouvoir commencer et recommencer sans cesse. Ça, c'est une existence. Alors, en fait, il faut méditer, discuter sur toutes les situations dans lesquelles nous sommes bloqués. Et nous ne pouvons pas exister. Nous sommes quand même vivants. Voilà. Mais existants, non. Et notre vie manque de la vivacité existentielle, dans certains cas. Alors ce que je cherche à faire comprendre en évoquant tout ça, c'est qu'un sujet est d'autant plus vif, ou je dirais présent à une vie qui n'est pas seulement, comme toute vie vivante, biologiquement réglée, mais est bel et bien une vie humaine. Donc ce que je cherche à faire comprendre, c'est qu'un sujet est d'autant plus vif ou présent à une vie qui est bel et bien une vie humaine que, effectivement, sans doute, mais c'est le point qui m'importe pour la suite de cette soirée, mentalement d'abord, il ne se trouve qu'imparfaitement assigné ou assujetti par des catégories qui, par définition, ne lui appartiennent pas en propre. Un sujet est d'autant plus vif, pas seulement vivant, mais vif, existant, si vous voulez, vivant d'une vie véritablement humaine, qu'il est d'autant plus vivant de cette vie qu'il est imparfaitement assigné ou assujetti par des catégories, qu'il est imparfaitement assigné ou assujetti mentalement dans son propre esprit, si j'ose dire, ce que je veux dire n'est pas la bonne expression, vous verrez pourquoi tout à l'heure, mais disons dans la représentation de soi, il n'est pas assujetti à des catégories qui, par définition, ne lui appartiennent pas en propre, mais lui sont attribuées. Encore que le appartenir en propre est probablement une formule qu'il faudra que je retire de mes notes, parce que je ne la trouve pas bonne à l'instant. Bon. Ce n'est pas qu'il s'agisse de devenir, pour ça que la formule appartenir en propre ne convient pas tout à fait, ce n'est pas que le sujet vif est à devenir pour autant lui-même parfait tribun de son existence. Ce n'est pas qu'il ait à savoir, ni qu'il puisse savoir de son côté, à part de toute relation avec d'autres, ce qui le définit ou définirait en propre. Ce n'est pas même que cette définition de mon être propre existe jamais. C'est, et c'est ça l'élément essentiel de ce que je cherche à faire comprendre, que nul sujet singulier ou personnel ne peut être défini, c'est-à-dire tenu dans une compréhension. C'est-à-dire comprendre, ça veut dire rassembler, si j'étais qu'ancien, je dirais rassembler dans un concept. C'est-à-dire, si on dit, nul d'entre nous ne peut être réduit à une phrase du type « tu es ceci », qui veut dire en fait « tu n'es que ceci ». Alors, si vous voulez que je sois clair, par exemple, dire « je suis français », qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Voilà. Elle n'est pour moi censée que si elle est pensée comme incomplète. Je ne suis pas que ça, bien entendu. Aucun adjectif ne peut définir l'être que je suis profondément, si du moins cet être est vif. Quand je suis définissable, rassemblable dans une dénomination, c'est que je n'existe plus. Donc je pense que nul sujet singulier ou personnel ne peut être défini, c'est-à-dire tenu dans une compréhension. Il y va, disons, sans cesse si possible, aussi longtemps que possible en tout cas, il y va de l'implication d'une entité, moi, le sujet, qu'il est possible d'entourer, de protéger et même de munir. L'être humain au monde est un être qui aura été entouré, protégé et même muni quand j'étais petit. Heureusement qu'on m'a muni, parce que moi j'étais bien incapable de le faire. J'étais complètement démuni. Le bébé est complètement démuni. Il faut qu'il soit muni. Donc il faut bien que les autres l'entourent, etc. Mais entourer quelqu'un et le définir, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et le tenir dans l'espace où on l'entoure, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc l'enjeu, en fait, c'est de nous penser comme une entité qu'il est possible, que chacun d'entre nous se pense comme une entité qu'il est possible d'entourer, de protéger et même de munir. C'est en principe, dans les débuts de l'existence, le rôle des parents et des éducateurs. D'une entité qu'il est possible d'entourer, de protéger et même de munir, qu'il est à la limite possible, comme on dit, de cerner. Je cerne la personnalité de quelqu'un, mais qui, par définition, est inaccessible. Voilà. La singularité de chaque un d'entre nous est inaccessible, et peut-être à nous-mêmes compris. Il me semble qu'il importe, pour que nos vies soient des existences, que la définition de chacun échappe à tout entourage et qu'elle le fasse et qu'elle commence par la faire, c'est échapper intérieurement. Que moi-même, je ne me pense pas comme défini. Alors, je vais vous faire une proposition, alors, je ne sais pas s'il faut dire conceptuelle ou langagière, à laquelle je tiens depuis pas mal de temps, je demande, je voudrais bien, je vous propose d'appeler éthique, strictement éthique, cette intériorité qui n'a pas de lieu définissable, que nul contour ne saisit et que je considère comme en soi intérieurement non prescrite. Je vais vous proposer, et ça sera important pour la suite du séminaire, de distinguer entre ce que je viens d'appeler éthique est ce que je vais définir sous le nom de morale. Et je pense qu'une des choses qui nous font souffrir depuis, une bonne vingtaine d'années, c'est que, et je pense que ce n'est pas par hasard, ce sont des stratégies de langage. Pour que nous n'existions pas tant que nous pourrions, qui nous fait confondre aujourd'hui éthique et morale, et c'est pour moi une confusion épouvantable. Voilà. Donc je vous propose d'appeler éthique le lieu intérieur indéfini, profondément indéfini, à partir duquel, ou sans lequel, aucune existence n'est possible. Mais des vies, oui. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Enfin, il y a des tas de choses qui me viennent à l'esprit en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire papier d'identité, quoi ? Donc, c'est, derrière ça, il y a l'idée qu'on va pouvoir définir un sujet. Voilà. Bon, à discuter si vous voulez par la suite. Donc j'appelle éthique l'intériorité indéfinie et j'espère indéfinissable, qui n'a pas de lieu définissable, que nul contour ne saisit. Et je la considère comme en soi non prescrite. Il n'y a pas de prescription de l'éthique. En revanche, la morale est prescription. Autrement dit, l'éthique, je vais bientôt utiliser cette expression, la zone éthique du sujet. L'éthique n'est pas dans l'empire du symbolique. Elle n'est pas... définissable dans aucun mot, quel qu'il soit. Il n'est pas sûr que l'éthique se dise jamais. Il n'est pas sûr qu'on puisse jamais dire l'éthique à partir de laquelle nous existons, ou avec laquelle nous existons. Il n'est pas sûr qu'elle se dise jamais. Il est plutôt probable qu'elle ne fasse jamais qu'affleurer dans le dire. Par exemple, dans un ton de langage, de mots, etc. Je vais tâcher de préciser. En d'autres termes encore, dans ce que j'appelle éthique, alors j'avais lu un texte, me semble que c'était un texte de Heidegger, il me semble que c'était la lettre sur l'humanisme, il me semble bien que dans ce texte d'Heidegger, Heidegger rappelle que éthique vient de ethos en grec, et que ethos en grec, ça veut dire le repère, P-A-I-R-E, c'est-à-dire là où la bête est, auprès de soi, le plus qu'il est possible. Hein, voilà. Donc, ce serait ça, l'éthique. C'est là où je suis, quoi que je ne sache pas où c'est, ni ce que c'est, ni de quel langage c'est habité, parce que c'est peut-être pas habité d'un langage, c'est là où je suis, le moins convenu. Le moins convenu. Donc il est possible que le langage, dans cette zone éthique de la personne que je suis, par hypothèse, il est possible que le langage ne résonne pas toujours déjà dans les significations qu'il a pour les autres. Il est possible que, éthiquement, j'entende les phrases qu'on m'adresse autrement que les autres les entendent eux-mêmes quand ils me les adressent. Hein, je les entends à ma façon, qui ne peut se dire. Parce que la langue, a priori, elle n'est pas... pour chacun. Oui. Est-ce qu'on n'est pas tous comme ça ? Est-ce qu'on n'est pas tous entendant les mots qui sont toujours peu ou prou les mots des autres à notre façon, sans arriver jamais à ce que ça s'ajuste, en tout cas de manière définitive ? Parce que ce n'est pas défini tout ça. Le langage ne résonne pas éthiquement toujours déjà dans les significations qu'il a pour les autres. De là, d'ailleurs, que nous autres, de l'extérieur, pour ainsi dire, nous pouvons entendre ou lire à l'occasion chez tel ou tel sujet ce que nous trouverons être des tournures ou des inflexions à lui personnel. Quelqu'un qui écrit personnellement, c'est quelqu'un qui n'écrit pas comme tout le monde. C'est quand même la langue de tout le monde, et pourtant là-dedans, il y a une inflexion, une tournure, une intonation qui est le signe de cet auteur. Sorte de légère déviance, un clinamen par rapport à la convenance. Voulez-vous remarquer au passage que, comme le signalait Simone Veil, l'obéissance elle-même, pour autant qu'elle ne soit pas un affolement terrifié, suppose, pour sa propre durée, l'inverse de ce que je viens de dire. Car en effet, il n'y a pas d'obéissance sans un langage dont l'obéissant prend acte à la façon du donneur d'ordre, alors même que pour lui, personnellement, intérieurement, c'est d'évitement qu'il s'agit. C'est-à-dire quand on me donne un ordre et que j'y obéis, je me range à la signification de l'autre qui me donne l'ordre, mais moi, intérieurement, je sais très bien que je n'entends pas le monde comme ça, et je n'entends pas qu'on dise le monde comme ça. Quiconque obéit, il me semble, ne peut pas ne pas faire cette expérience-là, de savoir que intérieurement, il est désobéissant. Voilà. Autrement dit, il y a une zone dans laquelle il ne parle pas comme son donneur d'ordre. Il n'entend pas la langue comme son donneur d'ordre. Justement, l'obéissance consiste à laisser dans le seul registre de ce que je propose donc d'appeler la zone éthique, la possibilité d'éviter tel ou tel ordre donné. J'obéis, c'est-à-dire je retranche au plus profond de moi ce que je pense vraiment de ce qu'il y a à faire. Je peux dire la chose autrement. On n'obéit pas en raison de sa personnalité, on n'obéit jamais en raison de sa personnalité, mais on obéit en tant que, laissant sa personnalité à part, la mettant en quelque sorte de côté, justement, on ne cherche pas à la dire. Quand j'obéis, je ne cherche pas à dire, je m'interdis de dire, de fait, ce que je pense. Ça reste intérieur. Alors, j'en viens à ce qui est, d'une certaine manière, la perspective de tout ce discours. Je voudrais préciser que l'éthique du sujet, l'éthique, la zone éthique, l'éthique n'est pas la morale. Car la morale est faite de prescriptions, c'est toujours des tudois, etc., dont l'hypothèse de la morale, c'est que ces prescriptions, la morale est prescriptive, l'éthique n'est pas prescriptive. La morale, en fait, je me pose une question éthique quand précisément je n'ai pas de réponse morale. Quand la morale ne me dit pas ce qu'il faut faire, alors je suis livré à moi-même, comme on dirait couramment, je vais enlever le même tout à l'heure, mais je suis livré à moi je me consulte et je fais ce que je peux. Voilà, je dis ce que je peux, etc. Si j'ai une prescription morale, je n'ai pas besoin de me consulter. La morale a répondu pour moi d'avance. Voilà. Donc, je précise bien que ce que j'entends par éthique du sujet, ça n'est pas la morale, car la morale est faite de prescriptions dont l'hypothèse est que ces prescriptions sont partagées puisqu'elles sont censées valoir pour les mœurs. Mœurs et morale ont la même étymologie. Et l'éthique, c'est moi. La morale, c'est plusieurs moi. Un groupe, les mœurs, prescrits. Pour un ensemble de moi. Pour cette raison, la part morale du sujet se trouve là où il lui est possible. Il me semble pouvoir soutenir cette proposition que la part morale du sujet se trouve là où il est possible, là où il aura été possible à ce sujet d'être non pas muant, non pas mobile, non pas variable, non pas inattendu, mais conforme. La part morale du sujet se trouve là où ce sujet peut être conforme, être le même. Je dirais même que la part morale du sujet est là où ce sujet se préoccupe d'être conforme aux autres, et elle se trouve là où, en effet, il est préoccupé, intimé par l'adéquation symbolique, par le fait d'être adéquat à ce que disent les autres. Ça, c'est la morale. Ça, c'est la conduite morale. Ne pas être différent. Le paradoxe de ce que je suis en train de dire, c'est que cette concordance et cette conformité substantiellement morale ne définissent pas le vif du commun. Peut-être que la concordance et la conformité substantiellement morale sont inévitables pour ce qu'on appelle une vie en commun, que j'appellerai ultérieurement la communauté. Mais le vif qui nous est commun, la vivacité commune à tout vivant humain, n'est pas liée à la concordance et à la conformité. Je perds ma voix. La concordance et la conformité substantiellement morales sont plutôt ce qui, tout en permettant au sujet les accords et les reconnaissances symboliques, qui lui sont peut-être fort utiles, hein, la concordance et la conformité, permettant au sujet les accords et les reconnaissances symboliques, le subjectif, y éteignant du même coup une part plus singulière qui reste, dans une certaine mesure, en lui éthiquement. Alors je crois que c'est une question qu'il faudrait traiter, que je pense que j'en fais assez, mais il faudrait traiter une autre fois ailleurs, que celle de savoir d'où se constitue et comment s'entretient donc la zone éthique du sujet. Alors, parenthèse simplement, mais c'est un autre sujet, je ne peux absolument pas me mettre là-dessus ce soir. Je pense que pour, en tout cas, l'entretien de ce que j'appelle la zone éthique du sujet, ce que j'appelle par ailleurs l'épreuve esthétique, joue un rôle. Hein, le fait de pouvoir avoir affaire à des épreuves qui seraient des épreuves esthétiques et qui me renvoient à ce que je suis par rapport à la chose qui m'arrive ou qui m'advient. Bon, je ferme cette parenthèse, mais ça serait une question, donc, de savoir comment s'entretient la zone éthique du sujet. À défaut de cette étude ou de cette réflexion, je répète que cette zone éthique suppose de penser un être au monde qui ne commence ni ne recommence dans et par l'adéquation aux mœurs. Elle suppose de penser un être au monde qui ne soit pas tout préoccupé de et par la morale. Si je parle de cette manière, si j'écris ou si je prononce le mot préoccupation en deux morceaux, il faut qu'on soit pas, pour être vif en fait, il faut pas qu'on soit préoccupé de morale. Je ne dis pas qu'on s'occupe pas de morale du tout. Je parle de la préoccupation du sujet par de la morale, qui fait que ce n'est pas un sujet singulier, qui fait que c'est un sujet conforme. Voilà. Donc je parle ainsi, si j'écris le mot préoccupation, ou si je le dis en deux morceaux, c'est pour faire penser que la morale, elle, en effet, préexiste à un sujet. La morale préexiste à mon existence, toujours. La morale préexiste à l'existence, toujours. La morale est préexistence par excellence, d'une certaine manière. Elle est là avant. Et donc, ça commence, il ne recommence jamais. Hein, ça ne peut pas commencer, c'est toujours là déjà. Bon. Si je parle ainsi, si j'écris le mot préoccupation en deux morceaux, donc c'est pour faire penser que la morale, elle, préexiste à un sujet qui n'existerait singulièrement pas, pour sa part, s'il ne faisait jamais que subsister dans un état de mœurs donné. Le sujet existant est un sujet qui ne subsiste pas dans un état de mœurs donné. Peut-être que je suis en train de vous dire comment je peux, pour ce qui me concerne, entendre le mot émancipation, s'il faut l'entendre positivement. Un sujet n'existerait singulièrement pas s'il ne faisait jamais que subsister dans un état de mœurs donné, c'est-à-dire rester sous la loi morale, pour le dire vite. Sous la loi qui convient à des mœurs, mais pas au sujet, au pluriel, dans ces mœurs. Comment cette singularité du sujet peut-elle advenir? Si la morale occupe ou préoccupe tout attendu sujet, avant même qu'il n'ait grandi comme tel, avant qu'il soit un sujet majeur, si vous voulez, si la morale occupe ou préoccupe tout attendu sujet, avant même que ce sujet n'ait grandi comme tel, comment se fait-il que du non-moral émerge en lui? Comment se fait-il que du non-moral émerge en nous. De quelle épreuve cette émergence ressort-elle? Alors, je ne vais pas le faire, parce que ça serait long, et je crains que ça soit quand même une sorte de... Mais en écrivant ça, là, que je viens de vous dire, de quelle épreuve ressort le sujet pour qu'émerge en lui quelque chose qui n'est pas moral, hein, qui n'est pas adaptation, conformité, etc. Et je me suis dit qu'en fait, pour penser ça philosophiquement, il fallait relire le début du discours de la méthode de Descartes ou des méditations métaphysiques dans lesquelles Descartes fait un récit qui, moi, m'a toujours profondément intéressé. La suite m'intéresse beaucoup moins. Qui est justement pour ce que nous avons été enfants avant que d'être hommes, hein, qui pense à son enfance, et il dit en substance qu'est-ce qu'on m'a mis dans la tête à ce moment-là, et à un certain nombre d'années qu'on peut calculer en regardant les indications biographiques qu'il donne, il fait une crise. Il fait une crise, et voilà qu'il, comme il dit, il révoque en doute tout ce qu'il a un jour reçu en sa créance. Comment cette crise existentielle, ça m'intéresse dans le cartésianisme, ceux qui ont un peu mis de côté Descartes n'ont pas vraiment commenté ça ces dernières années. Le début, la crise existentielle sans laquelle ne se serait pas fondée la philosophie de Descartes. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là dans les textes? Qu'est-ce qui lui arrive pour que précisément ça craque toute sa morale, toute sa façon de vivre, jusqu'alors adoptée. Voilà. Bon. Donc, je vous passe ces notes de bas de page qui seraient un peu longues à formuler. Je considère simplement, pour l'heure, le sujet, si vous voulez, dans sa préexistence. Je dis que la morale, et non pas l'éthique, préexiste à la subjectivité, au sujet, à la personne, et qu'elle concerne le sujet, la morale, en tant que justement elle fait pour lui prescription. Cette prescription se traduit, si on veut être un peu concret, par des noms. Comment la morale nous advient-elle? Alors, en fait, ce que je vais essayer de vous dire, c'est comment la morale nous advient. Elle nous préexiste, donc en fait, c'est notre bain de naissance. Et donc, comment est-ce que nous allons cesser de baigner dans ce bain. C'est-à-dire... alors, d'abord, la prescription morale ou les prescriptions morales préexistent au sujet, qui pourrait dire « je ». Et cette prescription se traduit concrètement par des noms. Elle se traduit concrètement plus globalement par une langue. Et dans cette langue, par des tons, par des traits de langage qui sont donnés ou voués au futur sujet à et depuis sa naissance. Alors ces noms, cette langue, ces tons, ces traits qui me sont voués dès avant ma naissance. Et à ma naissance et depuis ma naissance, ces noms, cette langue, ces tons, ces traits m'inscrivent ou inscrivent le sujet naissant dans un certain imaginaire de la personne. Ça serait par exemple le prénom, hein, parce qu'on me donne un prénom, un nom et une identité quand j'en ai. J'ai déjà un prénom, un nom et une identité qui me sont donnés, hein, qui sont une vocation pour moi, qui me vouent à quelque chose. Donc, le prénom, par exemple, va déterminer un imaginaire de ma personne. Hein, c'est ton prénom singulier dans un nom de famille, qui lui est moins singulier, puisque c'est un nom de famille. Vous voyez, ce genre de petites choses, ça vous, ça donne une vocation au futur sujet, ça le subjective, voilà. Et donc toute la question de l'émergence de la zone éthique pour moi, c'est comment sortir de ces signifiants qui vouent le sujet à des prescriptions, littéralement, de langage. Donc, les noms, la langue, les tons, les traits qui inscrivent le sujet naissant dans un certain imaginaire de la personne, alors, exemple, le prénom, il faudrait bien d'autres exemples, bien entendu, mais qui l'inscrivent aussi dans une lignée, ça c'est le nom de famille, et qui l'inscrivent aussi dans une histoire, ça c'est le nom de la nationalité. À ma naissance, je reçois des noms, un prénom, un nom, et... un prénom, un nom de famille et un nom de nation. Voilà. Ben, tout ça, ça me trace d'avance, dans une certaine mesure, une personnalité, une lignée et une histoire. On me dit, tu es là-dedans. Dont l'ensemble de tout ça fait cadre pour une façon de vivre, même si ce cadre, jamais entièrement cohérent, tout est là. Ce cadre n'est jamais... C'est ça que je trouve intéressant, si j'avais le temps de lire précisément chez Descartes, c'est qu'il montre bien, en peu de phrases, l'incohérence des prescriptions qui font que, finalement, à un moment donné, il fait une crise. Voilà. Il dit, mais ce qu'on a dit pour que je me situe dans la vie, c'est pas cohérent. Voilà. C'est cette incohérence des prescriptions morales, me semble-t-il, qui permettent à la personnalité du sujet d'émerger. Les désignations, les prescriptions d'ordre moral ne promettent jamais clairement au sujet son avenir. Et au fond, c'est heureux. C'est dans le registre de cette cohérence manquante que le sujet se constitue et s'inscrit, me semble-t-il, en se débrouillant pour être ce qu'il peut être. En se débrouillant pour être. En bricolant, voilà. Y compris avec les signifiants. Et c'est en ce sens que toutes les nominations et tout le langage dont je viens de parler ont une dimension et une portée morale. Alors, j'ai presque fini, mais j'ai encore un petit peu de patience à vous demander. C'est possible ? Question. Est-ce qu'on peut habiter ces mots, ce langage et leur langue, tous les mots, le langage et les éléments de langue que je reçois depuis ma naissance, est-ce qu'on peut habiter le langage d'une manière générale, c'est-à-dire, habiter, ça veut dire, habit, c'est la même étymologie, hein, habit, habiter. Donc je dirais, habiter, c'est donner un pli personnel. Mettre un habit, c'est donner un pli personnel à du prêt-à-porter. Bon. Habiter, est-ce qu'on peut habiter les mots, le langage, la langue, c'est-à-dire donner un pli personnel sans déserter jamais les mots, le langage et la langue ? Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est d'introduire la notion de désertion. Désertion à la morale. Est-ce qu'on peut habiter les mots, le langage, la langue, c'est-à-dire donner un pli personnel à tout ça, sans déserter jamais, sans être, pour reprendre une formule qui m'est arrivée, j'avais intitulé un article comme ça, que j'ai retrouvé en préparant tout ce travail, j'avais oublié, qui s'intitulait « Être absent à la légende ». Et bien je reprends cette expression parce qu'elle me plaît. Est-ce qu'on pourrait habiter le langage, c'est-à-dire donner à tout ça un pli personnel, sans déserter jamais, sans être jamais absent à la légende du langage, légende littéralement, en latin, c'est un adjectif verbal qui veut dire ce qu'il faut dire. Voilà. Donc moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. On m'a dit comment il fallait que je dise. Voilà. On a cessé de me dire ce qu'il fallait que je dise. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je dis quand on me pose la question « Qui es-tu ?» Je dis les mots qu'on m'a dit de dire. Je donne mon prénom, mon nom et ma nationalité. Voilà. Est-ce qu'on peut être quelqu'un sans avoir jamais été absent à cette légende-là, au ce qu'il faut dire de soi pour être conforme, acceptable ? Est-ce qu'on peut habiter le langage, la langue et tout ce que vous voudrez de ce type sans éprouver jamais de vide de mots, de langage, de langue en soi, je dirais même sans éprouver jamais l'inanité du soi-même. Hein, le soi-même. Qu'est-ce que je dis ? Je suis moi-même. Je suis moi. Pourquoi ajouter même ? Voilà. Qu'est-ce que ça vient faire, ce même-là ? C'est-à-dire, je suis le même que j'étais déjà, que moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas changé. Donc si je ne change pas, vous reprenez tout le raisonnement de ce soir, il y a un truc qui ne va pas. Si on est foncièrement démuant, etc. Qu'est-ce que ça veut dire moi-même ? Voilà. Ou alors est-ce que ce même veut dire je suis comme vous ? Voilà. Je suis même que vous. Bon, alors Qu'est-ce que ça veut dire chaque un dans ce cas-là, vous voyez? Bon, est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est pas au fond, comment dire, important pour notre vivacité que nous ayons, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, une absence par rapport à ce que j'appelle la légende du soi-même. Hein, je ne sais pas si vous continuez à décrire, c'est-à-dire s'interroger sur ce que ça veut dire, ce même que je suis supposé être. Même que moi, même que qui. Est-ce qu'on peut habiter, d'une manière générale, quelque monde que ce soit, sans éprouver jamais l'inanité du soi-même, du soi comme même, du soi comme conformité? Est-ce qu'on peut habiter le monde sans éprouver jamais le vide, a priori, de ce que j'ai appelé ce soir la zone éthique? Vide que toute notion d'identité suture, ou à quoi toute identité évite qu'on se confronte. Toute identité évite qu'on se confronte au vide éthique qui pourtant nous rend vifs, si mon raisonnement est juste. Être absent à la légende, je reprends donc ici ma formule de 2008 en travaillant la valeur d'obligation qui s'entend dans l'adjectif verbal latin d'où est tiré le mot légende et qui veut dire ce qui doit être dit. Être absent à la légende, cela peut vouloir dire se soustraire à un langage dominant, ou cela peut vouloir dire ne pas employer les maîtres mots du moment. C'est-à-dire les mots par et avec lesquels se prononce et se signifie momentanément, en attendant de prendre une autre figure et un autre langage, les mots par et avec lesquels se prononce et se signifie momentanément, certes la morale, mais aussi ce que nous pouvons appeler le pouvoir et que j'appelle volontiers dans ce séminaire le despotisme. Ça va ensemble en fait, morale, quelque part ça va ensemble, morale, pouvoir, despotisme. Ça va ensemble parce que ça produit de la légende. Et peut-être que ça ne nous ferait pas de mal pour notre propre vivacité de pouvoir nous absenter à cette légende-là. Donc il est important de repérer chacun pour soi les désignations qu'on lui a faites et qui lui vont peut-être pas, même si chacun tente de s'y conformer. Mais c'est aussi important qu'on repère les mots qu'on nous dit qu'il faut dire, en général, qui sont les mots, en fait... parce que c'est ça, un mot qu'il faut dire, c'est un mot du pouvoir. Bon. Donc, est-ce que ça serait important important en effet que nous soyons capables de repérer les mots par et avec lesquels se prononce et se signifie, sans doute momentanément, en attendant de prendre une autre figure et un autre langage, la morale, mais aussi le pouvoir et le despotisme. Car le pouvoir et le despotisme, à leur tour, se signifient et même doivent faire adopter leur signification. Est-ce qu'il ne faut pas qu'un donneur d'ordre se fasse entendre de ceux qui lui obéissent? Autrement dit, que se faisant prescripteur et donc en quelque sorte moral, il obtienne un partage de son langage. Tout donneur d'ordre attend que son langage soit partagé, me semble-t-il. Et donc, d'une certaine manière, l'opération du donneur d'ordre est une opération morale ou l'inverse. Hein, l'opération morale est l'opération d'un donneur d'ordre d'une manière ou d'une autre. Voyez encore une fois Simone Veil que j'ai déjà, je crois, signalé sur ce point. Ce pourrait être une tâche que de repérer les mots d'ordre du domaine économico-social où le despotisme se déploie et de sauver le langage de la prégnance de ces mots d'ordre. Cette tâche est toujours d'actualité, et en même temps, elle est interminable, car le pouvoir, aussi constant soit-il dans sa notion et dans son principe, ne l'est pas nécessairement dans sa lieutenance. Si la présence du pouvoir a quelque chose d'interminable, si lui aussi il commence et recommence sans cesse, pour autant, il ne se délègue pas, Il ne s'intime pas constamment dans les mêmes figures, ni dans le même style. Lui aussi, à cet égard, il s'émancipe, et par conséquent, le repérage de ces légendes, des légendes par lesquelles il s'intime, est toujours à faire, est incessamment à faire. Et c'est un travail qui est devant nous aujourd'hui, si nous voulons, si nous pensons que s'émanciper, c'est bien. Alors j'en déduis deux remarques. Ça va être rapide maintenant, je vous promets. Et puis, un tout petit propos pour lancer la séance suivante. Je déduis deux remarques de tout ça. La première, que toute l'analyse que j'aurais développée suppose d'admettre, je pense que je pourrais résumer ça assez brutalement, en disant que les notions d'existence et d'identité s'opposent. Car l'existence suppose l'altération et le mouvement, tandis que l'identité fait prévaloir le même, le semblable ou le pareil. C'est pour l'heure, à mes yeux, une question que de savoir où et comment se situe le pouvoir dans cette affaire. L'hypothèse qu'il ne soit pas toujours le même, je viens de le laisser entendre, ne doit pas être exclue a priori. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu a priori que le pouvoir soit capable de s'émanciper lui-même, au moins de ses propres modes de figuration. L'hypothèse qu'il ne soit pas toujours le même ne doit pas être exclue a priori. Il faudra donc que tôt ou tard, ici, nous nous demandions s'il y a une existence et pas seulement une subsistance du pouvoir. Je ne trancherai pas à l'instant cette question, je la laisse pour plus tard, mais dans la mesure où j'ai jusqu'à présent lié le despotisme à la prise d'initiative, il me semblerait a priori, logique de répondre positivement à cette question. C'est-à-dire, ça va compliquer, évidemment. C'est-à-dire que les dominés qui s'émancipent, dont je parlais d'une certaine manière la fois précédente, c'est pas trop difficile de penser que c'est bien, pour le dire vite, dans la fatigue où nous sommes tous. Mais dire que le pouvoir s'émancipe, ça va être plus compliqué. Parce que du coup, comment faire valoir la notion d'émancipation ? Voilà. Donc, il y a là une question, je la pose, et je ne peux pas la traiter à l'heure qu'il est, dans l'état où vous, comme moi, nous sommes, hein, je pense. Deuxième remarque, en tout cas, retenons ça, si vous voulez. Au moins, ce minimum, existence et identité sont deux notions qui s'opposent. Voilà. Exister, ce n'est pas être identique à soi-même, ce n'est pas disposer d'une identité qui serait par définition stable. Alors évidemment, c'est pas inquiétant, hein, l'identité. Parce que l'inquiétude, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'instabilité par essence. Voilà. Mais l'existence est peut-être inquiétude, et en tout cas, elle n'est pas identité. Deuxième remarque, il va s'agir pour nous à présent, je crois, de prendre en considération le fait que les grandes mobilisations, celles qu'on dit générales, alors je pensais, vous savez, dans le début de la guerre 14-18, mobilisation générale. Je crains que malheureusement ce langage ne soit pas derrière nous. Mais les grandes mobilisations, celles qu'on dit générales, ou même seulement les mobilisations populaires, les mobilisations du commun. Alors qu'est-ce que c'est que la mobilisation ? C'est quand on convoque tout le monde au même endroit pour la même chose. Les grandes mobilisations, qu'elles soient générales, comme dans les moments guerriers, ou même seulement populaires, comme par exemple dans certains moments dits festifs ou sportifs, ou tout ce que vous voudrez. Excuse-moi Alexandre. Hein. Certaines grandes mobilisations populaires du commun pour une même cause ne sont précisément pas communes. C'est pas commun, la mobilisation du commun. Voilà. Il faut toute une technique pour ça, particulière, sans doute toute une domination aussi de la technique, ou une technique vouée à la domination, on verra bien. Voilà. Mais en tout cas, je pense que je peux poser à partir du raisonnement de ce soir que tout ce qui concentre le commun, compacifie le commun, le bloque, l'assigne, le fixe, etc., des grandes mobilisations, aussi populaires soient-elles, ne sont pas communes. Elles ne sont pas communes. Le commun n'est pas essentiellement ce qui existe pour la mobilisation. Les grandes mobilisations ne proviennent pas des communs, elles ne proviennent pas de leur mouvement existentiel, elles proviennent de puissances qui sont capables, de fait ou de droit, d'interpeller les communs et de les convoquer. Alors je dis cette phrase en ayant cherché dans les dictionnaires historiques, etc., qu'est-ce que ça veut dire interpeller et convoquer ? Interpeller, voilà. Les grandes mobilisations émanent de puissances qui sont capables, qui parviennent à interpeller les communs, c'est-à-dire à les arrêter. C'est ça que ça veut dire. L'interpellation, c'est arrêter quelqu'un dans son mouvement. Pour le convoquer. Le convoquer, vocation, cum, ensemble. La convocation, qu'on se retrouve tous alors, sous le même drapeau, par exemple. Ouais, des choses comme ça. Bon, ça, aussi populaire que ça soit, disons, statistiquement, ça n'est pas commun. Ça suppose la mise en mouvement, si j'ose dire, justement, c'est compliqué, la mise en jeu de puissances qui ne sont pas communes. Alors la thèse à laquelle je voudrais faire penser dans toute la suite du séminaire sera que ces puissances d'interpellation du commun ou des communs auxquels je viens de faire allusion ne peuvent opérer qu'en raison d'une certaine absence de la politique à son principe idéal. Les mobilisations du peuple des communs sont pas ordinairement communes, elles supposent des puissances d'interpellation, et ces puissances elles-mêmes peuvent opérer, je répète ma thèse que je justifierai ou tâcherai de justifier dans les séances prochaines, elles peuvent opérer en raison d'une certaine absence de la politique, non pas en raison de toute une absence totale de la politique, une absence de la politique à son principe idéal, à son idéal de principe. Pour l'heure, j'insiste seulement, si vous voulez, pour ce soir, j'insiste seulement sur cette idée que les mobilisations, que les concentrations, que les compacifications du commun ne sont pas des sens communes. Cette idée-là peut se dire autrement. L'humanité n'est pas essentiellement grégaire. Et la métaphore du troupeau, souvent invoquée pour légitimer l'existence de dirigeants hors du commun, ou à tout le moins une puissance de direction ou de gouverne peu commune, hein, la métaphore du troupeau ne s'appuie pas sur la plus commune possibilité d'exister. Je vous proposerai une autre métaphore que celle du troupeau pour parler des humains. L'humanité n'est pas existentiellement grégaire. Voilà ce que je pense. Et la métaphore du troupeau ne convient pas à la nommer, sauf quand on met en place, mettons, une argumentation ou une argutie pour légitimer des dirigeants hors du commun, par définition. C'est pourquoi la puissance de gouverne, disons, exceptionnelle, hors du commun, etc., elle peut, la puissance d'interpellation, elle peut mettre en danger les existences et plus généralement se rapporter à elle dans l'ordre de la menace. L'idée de contrecarrer ce genre de puissance pouvait être autrefois soutenue par la thématique historique de la sûreté, en tant que cette thématique fondait un droit d'appel contre ce que je pourrais appeler un excès de mobilisation ou un excès du pouvoir d'interpellation. Le problème que nous allons rencontrer dans les séances suivantes, jusqu'à la dernière, c'est que la thématique de la sûreté des communs, c'est que la thématique de la sûreté a cessé de nous être familière, et comme par hasard, si j'ose dire, à partir de la Révolution française, c'est-à-dire à partir du siècle des Lumières. La thématique de la sûreté, au sens historique du mot, je termine là-dessus, a cessé de nous être familière, la notion plus récente de sécurité a retourné la notion de sûreté. Cette dernière notion, la sécurité, laisse supposer qu'il appartient non pas au commun, mais à la communauté et à ses représentants de protéger, en quelque sorte, du dehors ou du dessus, le commun. Ça, c'est la sécurité. La sécurité, c'est l'État qui organise notre sécurité. C'est-à-dire la puissance extérieure, ce que j'appelle la communauté, mais la communauté n'est pas commune pour moi. Dans la version des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Ça n'est pas le mot « sécurité » qui figure, mais bien encore le mot « sûreté ». Ce qui est alors mentionné, donc, c'est bel et bien la sûreté, soit l'idée qu'il doit y avoir un droit organisé de telle sorte qu'on puisse être protégé des décisions de toute puissance gouvernementale supérieure. On a pensé ça, une notion de sûreté, donc ma question est où c'est ? Qu'est-ce que nous avons fait de cette notion ? Et cette notion voulait dire non pas que les gouvernants étaient fondés à nous protéger d'au-dessus de nous, voilà, mais que nous étions fondés à protester contre quelque puissance gouvernementale que ce soit qui nous interpellerait ou nous convoquerait à l'excès. Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait de cette notion de sûreté ? Je reviendrai ultérieurement sur le sujet. Je veux juste dire ici, je n'aurais jamais posé cette question si j'en avais eu l'occasion de voir, il y a déjà quand même quelque temps, le film de Straub, Jean-Marie Straub, « La France contre les robots », qui en fait est construit autour d'un texte de Georges Bernanos, que j'ai lu, qui s'intitule lui-même de la même manière « La France contre les robots », et ce retournement de la sûreté en sécurité, et peut-être finalement le fait que les pouvoirs, appelons-les, les pouvoirs issus de la société industrielle sont des pouvoirs qui ont privé nous autres en tant que commun de quelque chose qui s'est appelé à un moment donné la sûreté et nous a donné en échange la sécurité qui est tout autre chose puisque la sécurité donne des droits au pouvoir et pas des droits à nous autres. En fait, je reviendrai là-dessus à la fin du séminaire. Voilà. C'est tout pour ce soir, mais c'est déjà, je le crains beaucoup.
Merci.
Encore autre chose ?
Non.
Oui, je salue Yves, donc il vient de m'adresser un gentil mot. Voilà. Je vous ai assommé ce soir.
Phrase que tu as dit tout à l'heure qui m'a fait penser à une autre que tu as parfois souvent mentionnée de Merleau-Ponty.
Oui.
Un vide à combler par les mots. Et je me disais mais alors tu combler ça convient pas.
Oui. Alors d'abord il faudrait vérifier que cette citation un certain vide en soi comblé par les mots c'est pas une sorte de bricolage que j'ai fait de la phrase de Merleau-Ponty. Est-ce qu'il dit combler il faudrait retourner voir. Mais sinon, je suis d'accord. Ce qui est magnifique, c'est le vide. Mais alors, en fait, même si Merleau-Ponty dit le mot combler, je pense qu'il pense que c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on voudrait, c'est parvenir à dire ce qu'on est. Ce qui nous travaille profondément. Donc, ce vide qui nous travaille, on espère qu'il est comblable. Mais la réalité de toute expression langagière, c'est qu'elle parvient jamais à ce terme-là. C'est-à-dire, je n'ai pas fini, tant que je suis un existant, je n'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire. Le dernier mot, quand la parole me sera retirée, je ne serai plus un existant. Donc en fait, je pense que le comble, c'est l'espoir d'y parvenir enfin. Et l'existence, c'est pourvu que ça n'arrive pas. Tant que j'existe, je suis encore en train de chercher les mots qui me satisferaient.
Mais ce qu'on peut faire, en effet, c'est suppléer.
Et ce qu'on peut faire, en effet, c'est suppléer. Et c'est probablement ce qu'on fait chacun dans sa vie, c'est-à-dire, et on supplée d'ailleurs avec des mots d'emprunt. Ah, j'ai lu ça, ouh là là, ça m'a remué, ça m'a fait quelque chose. Je m'y suis retrouvé. Enfin, le retrouver est pas. Bon, je me suis trouvé là-dedans. Et donc, je vais pendant quelques temps vivre avec ces mots-là. Et puis, je vais m'apercevoir que c'est pas tout à fait ça encore. Voilà. Et ainsi de suite.
Est-ce que mais on peut mettre le son ou...
Oui, bien sûr.
Parce que peut-être qu'Yves Citon peut poser sa question en direct plutôt que je ne la lise.
Oui.
Si ça lui convient. Ou alors je la lis. Hein.
Alors en principe, le son est activé.
Je ne sais pas si mal. Ah non, il ne peut pas le mettre. D'accord. Alors, donc une question d'Yves Citon. Est-ce que le pouvoir qui pourrait être lui-même dans une dynamique d'émancipation n'est pas l'idéal de la démocratie? Et cela ne serait-il pas une zone d'éthique? Mais collective et non individuelle.
Ah. Redis-moi ça.
Est-ce que le pouvoir qui pourrait être lui-même dans une dynamique d'émancipation n'est-il pas, alors, entre parenthèses, l'idéal de la démocratie? Et cela ne serait-il pas une zone d'éthique, mais collective et non individuelle? Sachant que démocratie était entre guillemets.
Oui. Alors, sur démocratie... J'ai envie de dire, est-ce que je peux donner rendez-vous dans une séance ou deux? Je pense quand même revenir un petit peu là-dessus. La question m'embarrasse. En fait, je l'ai pas pensé en ces termes. Je pense pas qu'il y ait de... Je sais pas comment dire ça. Peut-être que ça serait une façon de répondre à la remarque d'Yves. Au fond, je me rends compte que je ne... Pour le moment, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose comme un silence collectif. Il me semble que le justement, c'est peut-être l'un des problèmes. C'est que le collectif ne manque jamais de mots. Il y a toujours une langue. Par exemple, la langue française, etc. Il y a toujours une langue pour le collectif. Et peut-être que ce qui se joue ou ce qui se sera joué historiquement avec la démocratie, ce sont plus la mise en marche de règles de partage, de distribution, que la recherche de formulations qui seraient existentiellement pertinentes. Ou je pourrais peut-être dire aussi que ça me vient à l'instant qu'il est pour moi important que nous puissions aussi être absents à une certaine légende de la démocratie. Pour autant que dans la démocratie, il y a encore le kratein, qui veut dire quand même le commandement et le pouvoir. Voilà. Qu'est-ce qui se joue de pouvoir dans le mot démocratie ou dans l'institution de la démocratie. Est-ce que, par exemple, ça serait assez ce que j'aurais tendance à penser, je suis désolé, je pense que mon propos est assez sibyllin ou étrange, mais est-ce que, par exemple, l'installation de la démocratie n'aura pas été presque d'entrée de jeu, paradoxalement, une absence à la une absence à la vivacité et au bricolage du commun, une mise en ordre, on pourrait dire les choses comme ça. Donc la démocratie, ça va à la communauté, ça va peut-être pas en fait au bricolage existentiel de chacun d'entre nous, dans la mesure où il reste encore à régler la question du kratein, précisément. Je sais pas si je suis clair. Bon. Je pense pas tout à fait, mais en tout cas, je pense que je vais quand même tourner un peu autour de cette question dans les séances suivantes.
Alors, il y a deux réponses. La première, c'est quand vous avez dit qu'il fallait attendre 2 semaines, il a dit « Ok, on attend 2 semaines ». Et la seconde qui vient d'arriver, « Très beau, merci
». La question de Yves, ce que tu viens de dire, ce que tu disais un peu plus tôt, me fait penser à un texte de Roland Barthes, à sa leçon inaugurale au Collège de France, dans lequel il parle Il me semble qu'il parle de la mobilité du pouvoir dans la langue. Et ça me rappelle une remarque aussi que tu avais faite il y a quelque temps, mais où tu te séparais de toutes les démarches qui consistent à déplacer le pouvoir, il me semble. À déplacer le pouvoir, tu disais le problème, c'est pas de déplacer le pouvoir, et ça me fait penser à ce que propose Yves, parce que même un déplacement collectif du pouvoir serait pas satisfaisant pour toi, peut-être. Est-ce qu'un déplacement collectif
Je sais pas ce que j'entendais à l'époque que tu me rappelles, mais je dirais que...
Il me semble qu'il s'agissait de... que tu répondais à Foucault, me semble.
Oui. Ben oui, enfin, ça va me travailler dans la suite, la question des dispositifs de Foucault, etc. Où est-ce qu'il se situe est-ce que Foucault pensait que le pouvoir est mobile ben, en tout cas, les dispositifs, ils le sont, il me semble. Enfin, j'y reviendrai de façon plus précise. Moi, je pense que ma formule, si je l'ai dite, ce qui m'intéresse, c'est pas de déplacer le pouvoir, c'est que dans le déplacement du pouvoir, il y a toujours du pouvoir.
Oui.
Donc, je me place pas de ce côté-là. En tout cas, j'essaye de penser de l'autre côté. Et je chercherai à la fin, et je les trouverai pas, je vous le dis tout de suite. Je vous en proposerai toute une série. Mais quel serait le mot qu'on pourrait... opposé à pouvoir, et qui serait un mot qui ferait que l'idée de se placer de l'autre côté trouverait son mot, quand même, trouverait le mot qui lui convient. Voilà. Alors, est-ce que c'est résistance? Est-ce que c'est insurrection? Est-ce que c'est... Enfin, il y aura toute une série de mots que je vais aller chercher dans la période de la Révolution française, dans le lexique de la Révolution française. Et je pense que je ne le trouverai pas. En revanche, je complète ma réponse peut-être à la question d'avant et à la tienne. En fait, ce qui m'est arrivé, au fond, j'avais déjà largement préparé tout ce travail lorsque je me suis dit, mais en fait, il y a un problème dans ce que je dis, c'est que je ne sais pas ce que je pense sur la question suivante. Est-ce que c'est le pouvoir qui est mobile, c'est-à-dire existant, c'est-à-dire qui se déplace lui-même, hein, qui n'est donc jamais le même, et quand même... on a peut-être des raisons historiques de se dire que le pouvoir s'est déplacé, ou bien est-ce que c'est la lieutenance du pouvoir qui se déplace, c'est-à-dire la façon dont il se figure. Alors, soit qu'il se figure à ses propres yeux, soit qu'il se figure à nous autres, qui ne sommes pas du côté de l'interpellation, qui sommes du côté des interpellés. Alors, est-ce que c'est la logique existentielle, est-ce qu'elle est du côté de la figuration du pouvoir, ou est-ce que le pouvoir même... Et migrant, muant, mutant, etc., auquel cas il serait commun. Alors ça me gêne quand même de penser ça. Je ne peux pas. Je me sens que ça ne serait pas cohérent. Voilà. Donc je penche plutôt pour essayer de penser avec cette façon-là de dire que ce qui est muant, mutant, etc., ce qui est donc d'une certaine manière existant, et à quoi il faut penser, nous autres qui essayons d'être du côté, mettons, des résistants pour aller vite, que la figuration du pouvoir est mobile. Voilà. Le pouvoir ne se dit pas aujourd'hui comme il se disait hier. Mais aujourd'hui comme hier, c'est une tâche pour ceux que l'interpellation du pouvoir, d'une certaine manière, empêche d'exister. C'est une tâche pour eux de repérer les mots du pouvoir et de ne pas les répéter eux-mêmes dans leurs propres phrases. Hein, c'est-à-dire d'y échapper. Quitte à manquer à la morale. Alors j'ai des tas d'exemples en tête, je pense assez concrets. Je pense qu'on est aujourd'hui, pendant la période actuelle, dans une période d'extrême moralité, où il y a plein de choses qu'il faut dire et plein de choses qu'il ne faut pas dire, et que tant qu'on sera prisonnier dans ce « il faut dire, il ne faut pas dire », dans les légendes du pouvoir, ben, on n'est pas sorti d'affaire. Voilà. Donc pour moi, c'est une tâche de repérer les mots du pouvoir, de ne pas y souscrire, etc. Et les mots du pouvoir ne se présentent pas, comment dire, les mots du pouvoir ne se présentent pas, ça serait trop facile s'ils étaient manifestes. Non, ils se présentent comme prescription morale. Il est bon que, il est bon pour toi, il est bon pour vous. Et combien sommes-nous à nous rendre à ce discours qui n'a pas l'air d'être un discours du pouvoir et qui pourtant en est un.
Remarque de Cécile.
Oui.
Qui écrit « Il me semble que l'analyse des Ménines de Velázquez par Foucault laisse penser que le pouvoir ne se modifie pas, mais change de place et de façon de se montrer. »
Oui, mais oui, moi je suis assez d'accord pour penser dans ce sens-là. Après, moi je ne suis pas assez foucaldien ou spécialiste de Foucault pour savoir dire si Foucault a été constant sur sa position là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs Foucaults dont l'un pensait que le pouvoir lui-même recommençait, ne cessait de recommencer, etc. Ou un Foucault qui penserait plutôt que le pouvoir, il dit quand même souvent dans ses phrases le pouvoir, bon, mais que le pouvoir se figure différemment en dispositifs qui sont plutôt à une époque comme ceci et plutôt à une époque comme cela, etc. Mais comme je cherche pas à faire une thèse sur Foucault, pour moi c'est pas très grave quoi. L'essentiel c'est que c'est d'arriver à penser la question ou à la formuler en tout cas. C'est-à-dire encore une fois, est-ce que nous allons pouvoir tenir à cette idée qui me semble importante qu'en fait c'est la figuration, la lieutenance du pouvoir qui est mobile. Et pas ce qu'on pourrait appeler le pouvoir lui-même, qui au fond n'existe pas en dehors de ces figures, sinon comme une espèce d'abstraction plus ou moins vide. Mais j'ai lu des textes, d'ailleurs c'est une lecture que Yves m'avait conseillé de Suter, au-delà de la loi, et il me semble qu'il dit à un moment quelque chose comme ça, la loi est vide. Voilà. C'est-à-dire le pouvoir n'existe que par le fait qu'il se figure. Et ça, les figurations, elles sont mobiles. Il n'empêche que même si le pouvoir en tant que tel ne parle pas, il demeure quelque chose qui s'appelle pouvoir, qui se négocie en morale, en ordre, en légende, en toute chose. À quoi, pour notre vivacité, il importe que nous puissions, alors comme vous voudrez, échapper, ou en tout cas bricoler avec ça. Voilà. En fait, je pense ça, je pense que tout ce que nous pouvons faire, c'est opposer des bricolages à ce qu'on peut appeler, pour aller vite, le pouvoir. Voilà. Des tâches finalement modestes. Je parle pas comme ça, je parle pas comme il faut, pas tout à fait, et au moins pas tout à fait, et... Je fais pas toujours ce qu'on me dit et je bricole. En tout cas, ceux qui tiennent le pouvoir et le langage du pouvoir n'aiment pas qu'on reprenne pas leurs mots, qu'on dise les choses autrement. Ah oui, alors si tu dis contre-pouvoir, j'aurais mis longtemps à penser ça, mais maintenant je crois que je le pense. Oui, c'est une expression qui ne me va pas. Ouais. Contre-pouvoir, dans contre-pouvoir, il y a pouvoir.
Il y a une question d'Antoine ou de Laetitia, ou des deux ensemble, mais ils peuvent la poser en vrai.
On devrait les entendre.
On devrait vous entendre là.
Oui, j'ai activé le micro, vous m'entendez ?
Oui.
Bonsoir Pierre Damien.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, notre question, je suis avec Laetitia, est la suivante. Donc, on a entendu que la dynamique de l'existence implique de tenir à distance ce qui assigne, ce qui bloque, ce qui fixe. Vous avez dit ça tout à l'heure. Et un peu plus tôt dans le séminaire, on a parlé, et il m'a semblé plutôt en bonne part, de la notion de place dans la demeure, et un peu plus tard de la notion de fidélité. Et bon, dans une façon un peu rapide de penser ces choses-là, on pourrait les associer à justement ces notions comme étant plutôt du côté de ce qui assigne et de ce qui fixe, mais il m'a semblé que ce n'était pas tout à fait dans cette idée que ces notions étaient abordées. Donc je me demandais si on pouvait juste donc remettre en perspective ces notions-là de place et de fidélité par rapport à la notion d'existence.
Alors, sur la notion de place, effectivement, il y avait une question, je me souviens, je crois que c'était la première séance, c'était Yves aussi qui l'avait posée. Il y a un problème de traduction, parce que dans le texte de Xénophon qui s'appelle les économiques, il y a le mot grec taxis, qu'on traduit conventionnellement par place, qui faudrait peut-être trouver une autre traduction que place à cause de ce que j'essaye de dire. En tout cas, moi, il faudrait que je fasse un travail, je le fais, hein, je cherche comment traduire ce texte autrement qu'avec le mot de place, je ne sais pas, si je prends une comparaison, je dirais que pour faire une phrase qui soit audible, il faut forcément que je mette les mots selon des places dont je ne suis pas le décideur. C'est la syntaxe de la langue qui d'une certaine manière, rend sensée la façon dont je vais parler. Donc, dans la syntaxe, chaque mot a, taxis, une place qui s'accommode de la place des autres mots, etc. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait chercher à comprendre le sens du mot taxis chez Xénophon. Alors j'ai dit en commençant cette séance que j'imaginais de faire un séminaire l'année prochaine en reprenant des questions qui sont laissées latentes dans celui de cette année. Ça en serait une. C'est-à-dire revenir sur le texte de Xénophon et affronter cette question de place, le fait que... Autrement, il me semblait, moi, que la position que je développais dans le séminaire, c'était plutôt que, par exemple, une critique de l'envie, l'être envieux, à la différence de l'être... Enfin, moi, je pense que l'être désirant a besoin que l'autre, qui est l'objet de son désir, ne soit pas le même que lui ou qu'elle. Enfin, mettez ça dans tous les genres que vous voulez. L'envie, l'être envieux, c'est quelqu'un qui veut avoir les mêmes attributs que l'autre et éventuellement à la même place que l'autre. Donc, je pensais avoir, dans le séminaire, plutôt insisté sur l'idée que peut-être ce qui serait... alors, je vais dire, dans le langage de ce soir... ce qui irait avec notre vivacité, notre dimension d'existant, c'est justement de ne pas être deux à la même place. Voilà. Ne pas être deux à la même place, ne pas envier la place de l'autre, trouver une place dans laquelle on peut soi-même bouger. Voilà. Et il me semble, pour revenir à Xénophon, que la métaphore de la conjonction, les conjoints qui tirent le même attelage à deux, etc., la conjonction suppose premièrement que les deux ne soient pas à la même place, parce que tirer un attelage en étant deux sous la même partie du joug, c'est juste impossible, ça ne marche pas. Et justement, la conjonction suppose qu'il y ait deux êtres qui ne soient pas confondus dans leur place, si le mot place convient. En tout cas, si le mot place convient, étant donné ce que je dis ce soir, il faut que dans cette place, on puisse bouger. Ça puisse bouger. Voilà. Que ça ne soit pas une place assignée, irrémédiable. Voilà. Et en réalité, je pense que le mot place ne convient pas. Sinon, pour formuler sur un mode négatif ce que je cherche à formuler, c'est-à-dire il importe de ne pas être à la même place. Voilà. Il importe de ne pas être pas le même, voilà. Pas le même, ça serait, si j'ose dire, faut pas que je parle comme ça, mais le mot d'ordre du séminaire, quoi. C'est pas un mot d'ordre, hein, c'est une suggestion. Voilà. Pas le même. Et donc pas la même place. S'il faut des places, s'il faut le mot, alors disons des places complémentaires. Pardon ?
Les chaises musicales.
Les chaises musicales ? Ouais.
ou faire place. Quand tu parles de faire place, c'est quand même ménager de l'espace, qui même est protégé d'une certaine manière de tout ce qui pourrait l'encombrer.
Alors, toi, tu fais le geste comme ça, oui. Ménager l'espace. Moi, je ferais plutôt le geste comme ça. C'est-à-dire, faire place, pour moi, c'était... Alors, effectivement, si l'espace n'est pas extensible à l'infini, faire place, ça va vouloir dire déblayer, désencombrer, etc., pour qu'il puisse y avoir de nouveaux entrants, de nouveaux arrivants, de nouveaux habitants. Si, en revanche, on peut agrandir l'espace... Donc, ouvrir l'espace, bah, non, ça, c'est mieux. Oui. En tout cas, faire place, c'est pas prendre place.
Voilà. Mais dans ce cas-là...
C'est pas occuper une place non plus. Moi, l'occupation des places publiques, c'est une notion qui, pour moi, ne va pas de soi. Il me semble que la place publique, ça, je l'avais dit dans le séminaire... celui sur espace privé, espace social, etc. La place publique, je la pense comme un endroit vide de meubles, d'encombrement, etc. C'est pas un marché. Le marché consiste à précisément remplir une place d'objets pour les vendre, etc. La place publique, pour moi, c'est pas ça. Alors, dans ce cas-là, le mot place m'intéresse.
Mais je faisais ce geste parce que tout à l'heure, quand tu parlais aussi de l'enfant, tu disais, il y a un entour.
Oui.
Il y a un entour, mais à l'intérieur de... Il y a quand même oui. une mobilité Alors, possible.
Non, mais j'ai répété ce geste pour que tout le monde oui. puisse le voir, parce oui. qu'on ne te voyait pas. Donc, mais l'entour, que je sois entouré, ou que le bébé que j'étais, que chacun d'entre vous a été, etc., mais même encore... l'hyper-adulte que je suis soit entouré, c'est extrêmement précieux. La question, c'est que cet entourage ne soit pas justement le fait d'être cerné par l'autre ou par les autres, c'est-à-dire qu'on me laisse respirer, qu'on me laisse bouger, etc. Et chacun, à mon avis, est dans cette situation en tant que chacun cherche à exister. Alors, dans les moments de fatigue existentielle, dans les moments où l'inquiétude de l'existence, ça fatigue, qu'on a besoin de repos, on est bien content qu'il y ait quelqu'un auprès de soi pour nous entourer. Mais demeurer entouré, cerné, etc., c'est pas une existence. Après, chacun choisira ce qu'il voudra faire. Moi, j'ai plus de réjouissance, si le mot convient, à penser que je ne suis pas le même aujourd'hui que j'étais autrefois. Je suis content de ne pas m'être tenu à ma personnalité d'autrefois. Voilà. Et j'ai fait une séance pour le déclarer. Et en fait, j'ai quand même tendance à penser que chacun... de son côté, enfin, je sais pas si vous permettez que je dise ça, c'est un peu prétentieux, mais a besoin d'entendre une phrase comme ça. Je pense que chacun d'entre nous a besoin d'entendre que c'est bien de pouvoir ne pas être constamment le même. C'est bien au sens, pas moral, au sens, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien à la vie. Donc, malgré tout, je ne suis pas conservateur et pas réactionnaire. Il faut assumer ça dans toutes les conséquences, en tout cas au moins au niveau de la pensée, le plus qu'on peut. Donc, au niveau de chacun dans la vie, on fait ce qu'on peut, bien entendu, mais au niveau de la pensée, je pense qu'il faudrait essayer d'assumer ça le plus loin possible. C'est-à-dire, par exemple, une des conséquences de ce que... Après, je m'arrête parce que tout le monde est fatigué. Mais une des conséquences de ce que je viens de dire, c'est finalement de faire un éloge de la technique en tant que la technique, essentiellement, quand elle est dominée, quand elle est employée, quand elle est économisée, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand elle ne l'est pas employée, économisée, dominée, la technique est essentiellement quête de possible. S'intéresse à ce qui peut être, à ce qui n'est pas déjà, voilà. À ce qui est en devenir. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est bon pour ce soir? Je pense que oui. Hein.
S'il n'y a pas d'autres questions en ligne.
Ils sont épuisés.
Pardon? Eh ben merci à tous et toutes pour votre patiente écoute.
Merci à toi.
Il y a un message.
Merci. Merci. Merci.
Tu coupes le son?
Oui. Antoine dit merci beaucoup, Pierre-Damien. Bonne soirée.